Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1981 sous le titre original The Mismeasure of Man, La Malmesure de Homme est un essai de Stephen Jay Gould, paléontologue, historien des sciences et grand vulgarisateur américain. Le livre retrace et critique une tradition intellectuelle qui prétend classer les personnes et les populations selon une intelligence supposée innée, unique et mesurable. Gould examine notamment la craniométrie du 19e siècle, les premiers tests mentaux et les usages de la statistique qui ont servi à donner une apparence scientifique aux hiérarchies raciales et sociales. Son propos ne consiste pas à nier toute influence biologique sur les capacités humaines, mais à contester les simplifications qui transforment des mesures limitées en verdicts sur la valeur des individus. Il analyse aussi les conditions politiques, sociales et institutionnelles dans lesquelles ces théories ont prospéré. Réédité et enrichi en 1996, notamment par une critique de The Bell Curve, cet ouvrage demeure une étude majeure des rapports entre données, interprétations et préjugés. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le déterminisme biologique comme justification des inégalités sociales. Le fil directeur du livre est la critique du déterminisme biologique, entendu comme la croyance selon laquelle les différences de statut social reflètent directement des différences naturelles de capacité intellectuelle. Gould montre que cette idée a souvent permis de présenter les inégalités existantes comme inévitables, voire légitimes, lorsque la richesse, le pouvoir ou le niveau scolaire sont attribués à une aptitude innée. Les effets de la pauvreté, de la ségrégation, de la formation ou de la discrimination passent au second plan. Le raisonnement devient circulaire. Un groupe dominé est observé dans une situation défavorisée. Cette situation est convertie en indice de moindre capacité. Puis cette prétendue capacité sert à justifier le maintien de la domination. Gould replace donc les théories d'intelligence dans leur contexte historique, plutôt que de les traiter comme de simples découvertes neutres. Son analyse ne réduit pas les savants à leurs préjugés personnels, mais insiste sur le fait que les choix de problèmes, de catégories et de conclusions sont influencés par les valeurs de leur époque. Le livre invite ainsi à distinguer une observation empirique de son interprétation sociale. Cette distinction est décisive dès lors que des résultats scientifiques sont mobilisés pour distribuer droits, ressources ou possibilités éducatives. Deuxièmement, la craniométrie et les limites de la mesure des volumes crâniens. Gould consacre une part importante de son enquête aux pratiques de craniométrie, qui visaient à déduire les capacités mentales de la forme ou du volume du crâne. Il étudie en particulier les travaux de Samuel George Morton et les débats plus larges autour des collections de crânes au 19e siècle. Le problème central ne tient pas seulement à la précision technique des mesures. Il réside dans le saut conceptuel qui conduit du volume crânien à une hiérarchie de l'intelligence, puis de cette hiérarchie à une classification des peuples. Une mesure anatomique peut être réelle sans fournir pour autant la signification psychologique et sociale que son utilisateur lui attribue. Gould examine comment les procédures de sélection, de classement et de présentation des données peuvent orienter les résultats vers des attentes préalables. Son étude de Morton a suscité des contestations ultérieures, ce qui rappelle que les reconstructions historiques et les vérifications quantitatives restent elles aussi discutables. Toutefois, la leçon méthodologique du livre dépasse ce cas précis. Une pratique scientifique doit rendre visibles ses critères, ses exclusions et ses inférences. La présence de nombres, de tableaux ou de collections ne garantit jamais, à elle seule, la validité de la conclusion tirée. Troisièmement, la réification de l'intelligence est le problème du facteur unique. Un apport conceptuel majeur de la malmesure de Homme est la critique de la réification. Gould désigne ainsi la tendance à transformer une abstraction statistique ou psychologique en objet concret, comme si elle existait sous la forme d'une substance mesurable dans chaque cerveau. Dans ce cadre, intelligence devient facilement une propriété unique, stable et classable sur une échelle allant du faible au supérieur. Gould conteste moins la possibilité de mesurer certaines performances que la prétention de résumer les facultés humaines par un seul rang. Les résultats aux tests dépendent de tâches définies, de conditions de passation, de parcours éducatif et de conventions de notation. Une corrélation entre performances ne prouve pas automatiquement la présence d'une essence mentale unique. Le livre examine les débats autour de l'analyse factorielle, méthode statistique utilisée pour dégager des facteurs communs dans des ensembles de scores. Gould souligne que cette méthode exige des décisions interprétatives et ne livre pas une ontologie toute faite de l'esprit humain. Cette critique a nourri des controverses, notamment parce que des psychométriciens défendent la robustesse du facteur général G. La force de Gould est de montrer que même une structure statistique utile ne doit pas être confondue sans examen avec une mesure complète du mérite, de la valeur ou du destin social. Quatrièmement, des tests mentaux aux politiques de sélection et de hiérarchisation. le livre suit le passage des mesures corporelles aux évaluations psychologiques et aux tests de l'intelligence. Gould analyse comment des instruments conçus pour repérer certains besoins scolaires ou comparer des performances ont été employés dans des cadres beaucoup plus ambitieux sélection. Des migrants, orientation scolaire, classement militaire ou affirmation de différences collectives prétendument fixes. Cette extension des usages constitue un point essentiel de sa critique. Un test peut fournir une information circonscrite sur une performance dans une situation donnée. Mais il devient idéologique lorsqu'il est traité comme un diagnostic global de capacité humaine. Gould attire aussi attention sur le poids des conditions sociales dans la réussite aux épreuves familiarité linguistique, scolarisation. Environnement culturel et opportunités matérielles peuvent influer sur les résultats. Il ne soutient pas que toute évaluation est dépourvue de valeur, mais réclame une proportion entre ce que mesure un outil et les décisions que l'on prend à partir de lui. Cette prudence est particulièrement importante lorsque les résultats individuels sont agrégés afin de comparer des groupes. Une moyenne statistique ne décrit jamais intégralement les personnes qui composent un groupe et ne justifie pas de prédire les capacités d'une personne à partir de son appartenance. Supposé. En dernier lieu, la réponse à The Bell Curve est la vigilance face au retour du racisme scientifique. La seconde édition de 1996 ajoute deux chapitres dirigés contre The Bell Curve. Ouvrage de Richard Ehrenstein et Charles Murray qui avaient relancé aux États-Unis les controverses sur intelligence, hérédité et différence entre groupes. Gould y prolonge son argument principal, les débats contemporains peuvent réemployer des outils statistiques plus sophistiqués tout en reproduisant des hypothèses anciennes sur la fixité des aptitudes et la légitimité des hiérarchies sociales. Son intervention ne se limite donc pas à une histoire des erreurs passées. Elle interroge les conséquences publiques de certaines manières présentées dans des données psychoptiques. Gould met en garde contre les politiques qui déduiraient de scores ou de moyennes de groupe une réduction des ambitions éducatives, des protections sociales ou de égalité civique. Il insiste sur la diversité des trajectoires humaines et sur le caractère indissociablement scientifique et moral des décisions collectives. Les critiques adressées à Gould sur certains aspects de son traitement de la psychométrie et de ses analyses historiques doivent être prises au sérieux. Elle ne retire pas au livre sa fonction essentielle exigée que les affirmations sur des différences innées soient compensées à leurs méthodes, à leurs alternatives explicatives et à leurs effets politiques concrets. En conclusion, la malmesure de Homme convient aux lecteurs intéressés par histoire des sciences, psychologie, statistiques, éducation et études critiques du racisme. Il est particulièrement utile à celles et ceux qui veulent comprendre pourquoi une donnée chiffrée ne devient pas automatiquement une vérité sur les personnes ou les groupes. Le bénéfice intellectuel du livre réside dans l'apprentissage d'une lecture plus exigeante des arguments scientifiques, identifier ce qui est effectivement mesuré. Repérer les hypothèses qui relient la mesure à une conclusion et distinguer une corrélation d'une justification sociale. Cette compétence reste pertinente face aux débats contemporains sur les tests, les algorithmes de classement et les explications biologiques des comportements. Par rapport aux ouvrages généraux sur le racisme scientifique, Gould se distingue par son attention aux techniques concrètes de production des preuves. Il ne se contente pas de condamner moralement les théories hiérarchiques, il examine les crânes, les procédures de classement, les tests et les raisonnements statistiques qui leur ont donné une autorité. Par rapport aux introductions à la psychométrie, son angle est également singulier, car il place les méthodes dans leur histoire politique. Certaines de ses conclusions, notamment sur Morton et sur la lecture de certains débats statistiques, ont été discutées par des spécialistes. Lire le livre avec cette controverse en tête renforce plutôt son intérêt, il montre que la critique des sciences doit elle aussi accepter examen, réplication et débat. Son apport durable est une discipline de interprétation, attentive aux limites des nombres lorsqu'ils prétendent mesurer la valeur humaine. Si vous souhaitez soutenir Stephen Jay Gould, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.